Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis, j'ai horreur des disputes. Depuis toujours, les situations de conflit me donnent des palpitations. J'essaie d'être le genre de personne qui ne se dispute pas. Et je ne sais pas vraiment si c'est une qualité ou un défaut. Bien sûr, c'est impossible et peu recommandé de totalement éviter les conflits. Donc parfois, je me dispute avec mon compagnon. J'ai des conflits avec mes enfants, mes amis, mes sœurs. Et à chaque fois, ça me tord le ventre de contrariété, de gêne, de douleur. Le pire, c'est de devoir aller se coucher alors qu'un conflit n'est pas réglé. Pourquoi c'est si dur d'aller au lit fâché? Peut-être que je me dis que ça va être pire le lendemain. Non, a priori, la nuit ne renforce pas la rancœur. Ou bien j'ai peur que si une météorite vient faire exploser la planète, on ne sera pas réconcilié à temps. Mais en réalité, parfois, je n'ai pas d'autre choix que de m'endormir fâché, voire de dormir fâché plusieurs nuits d'affilée. Et il faut bien admettre que, jusqu'à présent, le monde ne s'est pas écroulé. Dans cet épisode, la journaliste Eva Tapiero s'interroge sur les bénéfices de la réconciliation. Peut-on et doit-on se réconcilier et faire la paix avec tout le monde? Il est question de violences conjugales et intrafamiliales. Assurez-vous d'être prêt à entendre parler de ça et préservez peut-être les jeunes oreilles autour de vous. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Mince alors.
S'il vous plaît, excusez-moi.
Mademoiselle, retournez vous asseoir.
Non, je suis vraiment désolée, mais il faut que je sorte de cet appareil, voyez-vous. Il faut que j'aille dire à quelqu'un que je l'aime.
Vous ne pouvez pas descendre,
mademoiselle. Laissez-la sortir de cet appareil.
Dans cet extrait de la série Friends, enregistré en public, on entend un tonnerre d'applaudissements parce que, attention, gros spoiler, on vient d'assister à une réconciliation attendue depuis tellement de saisons. En gros, Ross, joué par David Schwimmer, et Rachel, par Jennifer Aniston, sont sortis ensemble, se sont séparés, puis remis ensemble, puis reséparés. À la fin de la série, Rachel doit déménager à Paris. Mais voilà, Ross lui dit juste avant son vol qu'il l'aime encore. Que va-t-elle faire? Ils ont été en colère tellement longtemps l'un contre l'autre. Il y a eu tellement de ressentiments. Peuvent-ils vraiment envisager de se remettre ensemble? Bref, Rachel est dans l'avion, elle laisse un message à Ross, qu'il écoute sur sa messagerie chez lui. Oui, c'est une vieille série. On entend Rachel qui veut sortir de l'avion, et le message coupe. Ross est toujours chez lui, il hurle après son répondeur, il veut entendre la suite. Est-elle sortie de l'avion?
Oh, bon sang. Est-ce qu'elle est...
Puis on entend une voix merveilleuse, à l'entrée de la part de Ross.
Je suis sortie de l'appareil.
Une voix si douce, parce que c'est celle de la résolution. Et ils tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est exactement ce que j'aime quand je regarde un film ou une série, cette attente suivie du soulagement de la réconciliation. J'ai été brièvement avocate avant de devenir journaliste. En grande fan de réconciliation, mon entrée dans le monde du droit de la famille a été plutôt violente. Stagiaire, je répondais souvent au téléphone au cabinet. Les gens appelaient sans cesse pour demander un rendez-vous pour divorcer. Je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde divorce en fait. Avec plus de 100 000 divorces par an, forcément, ça fait du monde au téléphone dans les cabinets d'avocats. Quand j'ai commencé à exercer, j'ai principalement travaillé sur des divorces que l'on qualifiait pudiquement de compliqués. En réalité, il s'agissait souvent de divorces dans le cadre de violences conjugales. Il y a une question que j'ai commencé à me poser à l'époque. Est-ce qu'il est possible de se réconcilier avec quelqu'un qui nous a vraiment fait beaucoup de mal? Peut-on, ou même faut-il, toujours chercher à faire la paix avec tout le monde? Emeline s'est séparée de son conjoint, avec lequel elle a eu 2 enfants il y a quasiment 10 ans. Elle m'a tout de suite fait penser aux femmes que je défendais lorsque j'étais avocate. Elle m'accueille chez elle, près de Nantes. Elle a même prévu un déjeuner dont on a profité dans son petit jardin, au soleil. C'est là qu'elle me raconte son histoire. Celle d'une femme qui s'est mise en couple à 19 ans et qui a tout fait pour que ça marche.
J'ai rencontré mon ex-mari au lycée. Il était dans le même établissement en BTS. Et il y avait une soirée d'organisée par les BTS. Et donc on s'est rencontrés comme ça, par hasard.
Emeline continue à fréquenter cet homme pendant plusieurs années, jusqu'à emménager ensemble en 98. Comme ils ont des horaires décalés, ils se voient peu et n'apprennent pas vraiment à se connaître. Mais Emeline trouve aussi qu'il n'est pas très loquace, même quand ils sont ensemble.
Et en fait, plein de fois, je lui disais « mais tu parles pas quand tu rentres ». Il rentrait, il allait sur le canapé, il m'adressait même pas la parole. Moi, je trouvais ça hyper bizarre. Et lui me disait « mais non, mais tu connais rien, t'as vécu sans père, sans frère, tu sais pas ce qu'est un homme ». Et en fait, à chaque fois que je faisais des remarques, il se repositionnait toujours dans mon vécu familial d'un monde très féminin pour me dire qu'en gros, je connaissais rien aux hommes, en fait.
Après quelques années de vie commune, son conjoint lui parle de mariage. Emeline n'est pas particulièrement enthousiaste, mais autour d'elle, son entourage lui dit qu'elle ne doit pas avoir de doutes, qu'il est gentil. Et puis pour elle, à cette époque, le mariage apparaît comme la suite logique de leur relation. Elle accepte. Pourtant, le jour même de son mariage, elle a failli faire marche arrière.
Il faisait super beau, tout le monde était content, tout le monde nous a dit que c'était bien organisé, on s'est bien amusé. C'est vrai que c'était une super fête, mais au moment de rentrer dans l'église, donc j'étais déjà mariée à la mairie le matin, j'ai eu envie de faire demi-tour et après je me suis dit, mais je peux pas faire ça, parce qu'il y a toute ma famille qui est là, qui viennent de loin. Et donc courageusement, je suis rentrée. Et quand on est parti en voyage de noces, je me suis dit, bah, il parle pas beaucoup, l'effervescence du mariage passé, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vécu beaucoup dans le silence et dans, heureusement, les sorties avec les amis le week-end. Donc en fait, on se voyait pas tant que ça seul. Je cherchais tout le temps à avoir du monde autour de moi. Et le week-end, on était beaucoup avec sa famille, c'était imposé. Hein. Tout s'est construit autour de son entourage et donc forcément, au fur et à mesure, mon entourage a été évincé. Il restait beaucoup d'amis en commun, mais les amis que je connaissais avant ont disparu de la circulation.
À ce moment-là, Emeline ne se confronte pas à son mari. Elle ne se rend pas compte qu'il est en train de l'isoler. Un jour, Emeline, son conjoint et leurs 2 enfants jouent ensemble à s'envoyer une petite balle rebondissante.
Et en fait, il n'arrive pas à attraper la balle et du coup, il m'attrape par les cheveux jusqu'à ce que je me mette au sol. Et puis moi, je pleure parce que ça me fait mal. Et il dit « oh, tu sais pas jouer ».
Quand j'entends cette anecdote, je me dis tout de suite que c'est très violent. Pourtant, Emeline ne s'en rend pas compte. J'ai demandé à Geoffrey Marc, chercheur en psychologie, si l'on se rend toujours compte que l'on est dans un conflit. Il commence par définir cette notion. Il parle d'un processus qui implique des réactions émotionnelles, cognitives et aussi des comportements.
Ce processus-là, cet ensemble de choses-là, ça va débuter au moment où une partie, c'est-à-dire une personne ou un groupe de personnes, va réaliser, va percevoir que quelque chose pour lequel ils tiennent à cœur, a été, a ou va être impacté négativement par une autre partie de personnes.
Selon le chercheur, il est tout à fait possible de ne pas avoir conscience que l'on se trouve dans une situation de conflit.
Si on ne perçoit pas en fait que quelque chose va à l'encontre de nos intérêts, on ne va pas y réagir, on va peut-être accepter la situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas de cette façon-là. C'est-à-dire, si on n'a pas une grille de lecture qui fait que le comportement qui est fait autour de nous ou qui est fait envers l'objet qui nous tient à cœur est négatif, est mauvais pour une raison ou pour une autre, on va tendance à soit ne pas le voir, soit à l'accepter comme étant normal. Et du coup, il peut y avoir en fait des comportements ou des actions qui ont été faites à notre rencontre qui ne nous ont pas énervés sur le moment, mais qui, des années plus tard au fur et à mesure qu'on change en tant que personne et qu'on apprend de nouvelles choses ou qu'on adopte de nouveaux points de vue, va faire que ça va créer une colère ou peut-être nous mettre maintenant en nouveau conflit ou rouvrir un conflit qui n'avait pas eu lieu à l'époque.
On peut donc souffrir du comportement de quelqu'un sans forcément avoir conscience de la cause de notre souffrance. Et puis, dans la vie de tous les jours, on peut aussi avoir tendance à éviter le conflit. On n'a pas forcément envie de s'expliquer avec un collègue qui nous ennuie ou d'avoir une conversation avec son conjoint quand on rentre du travail. Pourtant, éviter le conflit n'est pas une bonne stratégie. Selon Geoffrey Marc, le conflit a une fonction importante.
La fonction, c'est de faire changer ce qui se passe. Soit de changer un statu quo qui ne convient pas parce que peut-être qu'on est exploité par une personne ou par une structure qui est dominante par rapport à nous. Et c'est l'occasion et un moyen de faire changer cette structure ou la relation avec la personne.
Alors je me demande, que l'on vive des conflits répétés dans son couple, avec ses amis ou en famille, comment déterminer dans quel cas on peut essayer de se réconcilier et dans quel cas on ferait mieux de couper les ponts? Pour Geoffrey Marc, il y a deux manières de résoudre un différend. La première, qu'il nomme stratégie unilatérale, c'est de dire en gros, c'est moi le chef. On impose notre autorité à l'autre, donc notre vision de la résolution du conflit. Heureusement, il existe des stratégies alternatives.
Ou il peut y avoir des stratégies plus bilatérales, comme la recherche de compromis, la justification, ou la recherche de coopération, qui est certainement celle qui devrait être la plus valorisée, mais qui demande aussi le plus de temps, le plus d'énergie et le plus de prérequis. Par exemple, si on veut sortir d'un conflit par coopération, c'est-à-dire prendre en compte à la fois nos intérêts à nous, mais aussi les intérêts des autres personnes qui sont impliquées dans le conflit, ça demande déjà de prendre un peu de recul, de savoir voir ce que nous on ressent, mais aussi ce que l'autre ressent et quels sont les intérêts, et aussi faire confiance en fait à la personne en face.
Là, on arrive à la condition cruciale pour résoudre n'importe quel conflit, la confiance. Mais accorder sa confiance n'est pas évident. On n'a pas envie de la donner à n'importe qui.
Donc ça demande de prendre un risque. Ce risque, parfois, on n'a pas envie de le prendre ou il est plus sûr de ne pas le prendre. La personne en face dans le conflit n'est pas forcément une personne qui va montrer autant de justesse qu'on aimerait. Si on ne peut pas faire confiance à la personne en face et qu'elle assoit, par exemple, une tentative de terminer le conflit par autorité, c'est comme ça que j'ai dit. Ben, soit on l'accepte, on fait de la subordination, on dit « Ok, c'est ainsi, je vais accepter ce qu'on me dit et je m'arrangerai avec le résultat du conflit. » Mais si on ne le veut pas ou si ce n'est pas dans un cadre professionnel, on peut s'énerver ou faire « Je ne voudrais plus interagir à l'avenir de cette façon-là ou dans ce cadre-là avec telle ou telle personne. »
Alors qu'Emeline et son conjoint ont un enfant en bas âge, ils sont sur le point de se séparer. Mais son conjoint la menace de mort, de lui enlever son enfant, de se suicider. Alors Emeline reste. Le quotidien reprend, et avec lui, la peur et les violences.
J'étais très attachée, en fait, à des peluches que j'avais, à mon range-pyjama de quand j'étais petite, voilà. Mais un jour, il a tout balancé en me disant « t'es grande maintenant, t'as plus besoin de ça ». Mais c'était pas exposé dans ma maison, mais j'avais envie de les garder, donc il m'a tout jeté. Des petits trésors que j'avais gardés, des petits mots de ma correspondante, des petits trucs comme ça. Tout ça, c'est parti à la poubelle. Pareil, j'avais un magnétophone où mettre les cassettes. Et en fait, j'y tenais, c'est ma mère qui me l'avait prêté. Et j'en avais jamais eu adolescente, donc c'était, j'avais envie de le conserver, je l'ai eu très tard. Et ben, il me l'avait balancé, il me fait, on n'en a plus besoin, c'est les CD maintenant. Les soutiens-gorge, il m'a fait sortir toutes les baleines, donc j'avais plus de sous-vêtements, quoi. Il me découpait mes fringues. C'est que des trucs comme ça, en fait. Ça peut être très matériel et ça peut être extrêmement destructeur. Donc moi, c'était beaucoup ça, de la manipulation, des insultes. Des violences psychologiques et puis les violences sexuelles beaucoup aussi. Ça, c'est terrible parce que ça laisse des traces quand même assez longtemps.
Quand Emeline me raconte ces scènes, ça me glace le sang. Des années à subir cette violence sans s'en rendre compte. Comme on l'a vu avec Geoffrey Marc, le conflit est présent partout dans nos relations. Mais la violence est-elle un conflit comme un autre? Pour le sociologue Pierre-Guillaume Prigent, il est très important de distinguer la notion de violence de celle de conflit.
Alors moi, je suis Pierre-Guillaume Prigent, je suis docteur en sociologie. J'ai soutenu ma thèse sur les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale.
Pour commencer, je lui demande la différence entre un conflit et une violence.
Alors dans une situation de conflit, on part du principe que effectivement les deux parties ont une volonté commune il peut y avoir parfois des disputes, enfin, dans tout couple il y a des disputes, il y a des difficultés, mais face à ces difficultés-là, les deux parties sont susceptibles de pouvoir discuter, et c'est pas toujours la même personne qui a le dernier mot, et c'est pas toujours la même personne qui en définitive cède.
Pour le sociologue, dans un conflit, chacun a donc sa part de responsabilité, même si ce n'est pas forcément à 50-50. D'où la fameuse phrase « il faut être deux pour se disputer ».
Alors que dans la violence conjugale, justement, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'égalité ou il n'y a pas de recherche de compromis. Il y a un agresseur, il y a une victime. Et l'agresseur, en fait, a le pouvoir et est en situation de domination, et la victime n'a pas le pouvoir et est en situation d'être dominée. Donc, ce qui distingue, en fait, La violence et le conflit, c'est le rapport de pouvoir qui existe en fait entre les deux personnes.
C'est ce rapport de domination et de contrôle dont Emeline ne se rend pas compte. C'est pour cela qu'elle ne perçoit pas l'ampleur des violences de son conjoint, bien qu'elle s'exerce au quotidien. Emeline est à bout. Après plus de 15 ans de vie commune, son conjoint veut se séparer. Elle saute sur l'occasion, mais elle ne peut pas partir du jour au lendemain. Ils continuent donc de cohabiter. C'est à ce moment-là que son conjoint devient encore plus violent.
Moi, j'ai peur déjà. Je vis dans la peur. Je sens qu'il y a une escalade. Je suis stressée, je dors pas. J'ai des cernes pas possibles. Et je me sens à bout de force. Dans mon parcours, je me suis dit plusieurs fois, je suis au bout de ce que je peux supporter. Mais en fait, je supportais toujours plus parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
Emeline dépose une main courante. Les violences continuent.
Quand je vais au travail, ça me tourne la tête parce qu'en fait, je ne dors pas assez. Il m'empêche de dormir. Il se met à boire. Il donne des coups de poing dans les murs. Il y a la marque de ses poings dans les murs. Je suis vraiment dans une essoreuse, mais littéralement. Et je sens que physiquement, j'arrive pour le coup vraiment au bout. Je me dis un jour, je vais tomber dans la rue. C'est plus possible. Je fais que de pleurer.
Après 10 ans de mariage, Emeline s'apprête à partir en déplacement professionnel. Mais une scène la stoppe net alors qu'elle passe la porte de l'appartement. Son conjoint se saisit devant elle d'un bateau en bois, un cadeau de voyage de la grand-mère d'Emeline, décédée.
J'y tenais particulièrement et l'a jeté jusqu'à ce qu'il se casse. J'étais tellement pétrifiée, la porte n'était pas fermée à clé, elle était ouverte, que je ne bougeais pas. Et je me suis dit, faut que je me fasse petite. Et là, je me dis, je vais faire mon déplacement. Mais quand je reviens, je retourne au commissariat.
Emeline dépose plainte pour violence psychologique et dégradation d'objets personnels. Elle est littéralement à bout de force.
Un jour, je me dis, ça ne va pas s'arrêter. Il est assez menaçant. Il laisse quand même entendre qu'il peut me faire disparaître pour que ça passe pour un accident. Et là, j'ai vraiment peur et je prends un sac, je pars au travail. Et donc, j'ai pris mon sac et je suis partie. Et j'ai squatté pendant 10 jours à peu près, jusqu'à ce que j'aie mon appartement.
À la suite de ses plaintes contre son conjoint, la justice a proposé à Emeline ce que l'on appelle une médiation pénale, en lui faisant comprendre que c'était médiation pénale ou classement sans suite. Petit point juridique. La médiation pénale est proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une infraction. Il n'y a pas de juge. L'auteur de l'infraction et la victime tentent de trouver un accord à l'amiable pour la réparation du préjudice subi par la victime. La victime se retrouve donc embarquée dans une confrontation dont elle n'a pas nécessairement envie. Effectivement, Emeline n'a pas apprécié l'expérience.
Ça se passe au tribunal. Ce qui est assez déstabilisant par rapport peut-être à un procès, c'est qu'on est aligné, comme s'il n'y avait pas de coupable quelque part. On est censé être côte à côte, ce que j'ai refusé. J'ai demandé à ce qui est mon avocate, qui était beaucoup plus grande et forte que moi. Voilà, je suis petite, je suis toute mince. Ça me faisait un genre de parade, parce que moi, j'étais toujours, à ce moment-là en tout cas, terrorisée à l'idée d'être à côté de lui, terrorisée d'avoir des échanges avec lui. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il y ait cette séparation physique qu'on n'a pas en médiation, puisque la médiation nous met sur un pied d'égalité, comme si nous étions tous les deux responsables de la situation. J'ai eu le sentiment que la justice, en fait, m'avait fait encore plus de mal que ce que j'avais subi. La médiation pénale, pour moi, c'est le coup de massue, en fait.
La médiation a aussi été pour son conjoint un moyen de continuer à manipuler, de continuer à exercer une domination, une violence.
Lui, il a joué la personne éplorée, que sa femme le quittait, qu'il était très malheureux, que oui, peut-être, il avait été trop loin, mais qu'il fallait le comprendre. Il est vraiment allé sur retourner les gens pour qu'ils posent leur regard, non pas sur moi avec ce que moi j'avais pu vivre d'horrible, mais vraiment sur lui, ce pauvre monsieur, ce qu'il vivait.
Dans les contextes de violence conjugale, l'objectif des pères violents, c'est pas de régler quelque chose, c'est pas de faire arrêter le conflit, enfin de fait la violence, mais au contraire de maintenir et de la continuer. Et en fait, justement, pour pouvoir faire ça, ils vont eux-mêmes se mettre dans une posture parfois de discussion, en fait. Mais je veux juste discuter, tu pourrais faire un effort.
Le sociologue Pierre-Guillaume Prigen détaille ce que l'on appelle la stratégie de l'agresseur. Selon cette théorie, l'auteur des violences a 5 priorités. La première, c'est d'isoler la victime. Ensuite, créer un climat de peur et d'insécurité, la dévaloriser, inverser la culpabilité et enfin assurer son impunité. Et selon lui, Ces cinq comportements, conscients ou non, sont voués à se répéter pendant et après la séparation, et donc durant la médiation.
En fait, les tactiques vont rester les mêmes. Le « assurer son impunité » de la stratégie de l'agresseur, là, prend tout son sens. Parce que justement, en fait, tout ce qu'il a fait à la victime, il doit le cacher, il doit le dissimuler. Toutes les violences, le contrôle qu'il a mis en place, il doit le dissimuler. Il a pour lui que les preuves sont difficiles à obtenir. Et il a pour lui le fait qu'il peut avoir une connaissance des institutions et des valeurs des institutions qui, justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, vont être davantage en faveur d'une médiation, d'une réconciliation, de la résolution d'un conflit, etc. Et donc, lui, en fait, n'a qu'à se présenter comme étant celui qui souhaite réconcilier les choses et améliorer les choses et juste vouloir discuter.
En 2019, 5 ans après son expérience de médiation pénale, un des enfants d'Emeline se plaint de violences de la part de son père. Elle a écrit au juge pour enfants « Aujourd'hui, on lui propose une médiation familiale. » Il s'agit d'un moment proposé à des conjoints ou ex-conjoints pour régler des conflits en dehors du tribunal. Un tiers professionnel, que l'on appelle médiateur familial, accompagne dans la démarche. Le but étant de se mettre d'accord ensemble sur ce qui pose problème. Au début de cet épisode, on a parlé de médiation pénale. La médiation pénale a lieu uniquement lorsqu'il y a violation de la loi. La médiation familiale se concentre sur la résolution d'un conflit dans la famille.
La médiation, elle est faite normalement pour régler des conflits. Quand les personnes n'arrivent pas à s'arranger et qu'il y a une volonté de la part des deux parties d'arranger la situation, mais qu'elles n'arrivent pas à communiquer temporairement, pour des raisons X ou Y, eh bien, dans ce cas-là, une médiation peut être utile. Mais dans le cadre de la violence conjugale, en fait, les deux parties n'ont pas la volonté de régler la situation. L'intérêt de l'agresseur, c'est que la situation de chaos, finalement, d'incertitude pour la victime, se maintiennent.
Pour Pierre-Guillaume Prigent, cette volonté de vouloir à tout prix réconcilier les gens sert donc davantage les agresseurs que les victimes. Lorsque j'étais avocate, j'entendais régulièrement cette phrase. C'est important pour les enfants que les parents soient capables de s'entendre. Versailles, 2011. Je suis toute jeune avocate, je défends une femme brisée par des années de violence, ses enfants ne souhaitent plus aller chez leur père, ils en ont peur. Il est violent aussi. Réponse de la magistrate. Madame, il faut faire un effort, c'est important de continuer à se parler, ne pas rompre le lien pour les enfants. Moi, je me demande comment on peut exiger de se réconcilier avec un homme violent. C'est tellement injuste de demander à la personne qui se fait écraser de faire un effort.
Et concrètement, en fait, on met deux parties qui ne sont pas à égalité, qui n'ont pas la même volonté, qui n'ont pas les mêmes aspirations et les mêmes intérêts, au même niveau. Et en fait, on les co-responsabilise. Et donc, très concrètement, en fait, ce qui se passe, de ce que j'ai pu voir dans mes travaux, c'est que la médiation, en fait, est un moyen pour l'agresseur, justement, de maintenir un contact dans un cadre où, en fait, le médiateur ou la médiatrice va tenter d'arranger les choses. Alors que normalement, on devrait être dans une optique de protection, de séparation. Là, en fait, on va essayer de tenter encore une réconciliation. Et de fait, ça crée voilà, des moments où, un peu fous, des médiateurs sont témoins de situations de violence ou entendent parler de situations de violence, mais pour autant ne considèrent pas qu'il s'agit d'un enjeu à prendre en compte.
Pour Pierre-Guillaume Prigent, les médiateurs sont là pour résoudre un conflit, permettre la réconciliation. Or, il n'y a pas toujours de conflit, dans le sens où c'est de la violence à sens unique qui s'exerce. Emeline appréhende beaucoup cette nouvelle séance de médiation. Cela lui donne le sentiment que la justice considère que faire la paix avec un ex-conjoint violent ne serait qu'une question de bonne volonté. Et pire, si elle n'accepte pas, elle craint de passer pour une mère qui refuse de se réconcilier avec son ex, même pour le bien de son enfant.
On peut être un homme violent et être considéré comme un bon père, mais un père qui a maltraité une mère devant ses enfants, est-ce que c'est un bon père ? Moi, je dis non. On minimise ce qu'on a vécu, on nous force à avoir des contacts avec lui et systématiquement, on parle de conflit parental, conflit entre les parents. Et moi, je suis pas en conflit avec lui. J'ai juste pas envie de lui parler. Il m'a fait subir des choses atroces. Est-ce qu'on accepterait d'une autre personne ça ? Non. Est-ce qu'on m'obligerait, si c'était quelqu'un dans la rue qui m'avait fait ça, à avoir des contacts avec lui ? Non. Mais c'est le père de mes enfants, donc on m'impose ça. Donc moi, en fait, depuis des années maintenant, je suis contrainte d'avoir des échanges avec une personne qui me maltraite dès qu'elle en a la possibilité, qui aujourd'hui maltraite mes enfants dès qu'elle en a la possibilité, par n'importe quelle fissure. Pour moi, c'est de l'eau. Vous avez un trou, peu importe la taille, il va rentrer.
Moi, ce que j'ai vu dans mon travail de terrain, c'est que finalement, les médiations, ça servait aux hommes violents à négocier que la victime ne paye pas la pension alimentaire, à avoir davantage de droits sur les enfants et à pouvoir en fait se victimiser dans un espace qu'il est considéré comme étant un père qui était lésé par parfois une femme qui est trop conflictuelle. Et donc, dans ces espaces, on rééquilibre la situation de domination, on considère que c'est pas de la domination et que c'est deux parties égales qui doivent s'arranger.
Comme tout le monde est mis sur un pied d'égalité lors d'une situation de médiation, ça a des conséquences néfastes pour la personne victime.
À partir du moment où la justice part du principe que quand on est parent, il faut s'entendre avec l'autre parent et qu'elle ignore la violence, dans ce cas-là, en fait, elle va mettre la victime dans des situations dans lesquelles elle pourrait être exposée à des nouvelles formes de violence de la part de son agresseur. Alors que la justice, en faisant ça, ou les médiateurs, en faisant ça, finalement, ne font que répondre à l'une de leurs envies, en fait, l'une de leurs valeurs.
Cette valeur, c'est la réconciliation. Emeline est coincée entre accepter et donc être exposée à des violences, ou refuser pour se protéger, ce qui peut se retourner contre elle. Le sociologue prend l'exemple d'une femme qui refusait de regarder son ex-conjoint lors d'une médiation. Ça lui a été reproché.
On va considérer que ces comportements, qui sont des comportements de protection, sont des comportements illégitimes et qu'elle veut faire entrave à la médiation et donc à la coparentalité. Donc là, ne pas saisir la violence à la situation de pouvoir, de fait, on la surresponsabilise. C'est elle qui devient la fautive et monsieur qui devient la victime.
Avant de revenir au récit d'Emeline, je vous propose quelques secondes de pause.
Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode « Faut-il toujours chercher la réconciliation ?» Bienvenue dans Émotion.
On pardonne pour soi, pour avancer. C'est un acte dignifiant que de se dire qu'on est capable d'aller au-delà de sa douleur. La décision est d'abord intellectuelle avant de devenir émotionnelle. Et c'est un immense soulagement que de penser que la personne qui vous a tant fait souffrir n'a plus de pouvoir sur vous. Le pardon n'est pas synonyme d'amnistie, d'impunité juridique. Il s'agit de deux concepts totalement différents. D'un côté, la légalité. De l'autre, l'âme, les ressources spirituelles.
Ce sont les mots d'Ingrid Betancourt, captive des FARC pendant 6 ans en Colombie, lors d'une interview de la journaliste Mintra Nui dans Madame Figaro, publiée en ligne en août 2014. Alors que la réconciliation implique la personne responsable, le coupable de l'infraction ou du mal, le pardon peut être considéré comme un processus solitaire. Bien sûr, les deux notions ne s'excluent pas forcément l'une de l'autre. On peut pardonner ou être pardonné pour se réconcilier. C'est même parfois le premier pas. Mais le pardon peut aussi être un chemin incroyablement difficile, comme celui qu'évoque Ingrid Betancourt. Et parfois, je me dis que ce qui est le plus violent dans ce pardon, c'est de reconnaître l'humanité dans la personne qui nous a fait violemment souffrir. Il serait sans doute plus simple de la nier, de lui enlever cette part d'elle. C'est peut-être de là que l'on tire la puissance du pardon aussi, lorsqu'on a réussi à dépasser tout ça. Le pardon est aussi un concept religieux. Maurice Gardiol est un diacre, retraité de l'Église protestante. Il a été aumônier en prison. Autant dire que des personnes qui souhaiteraient être pardonnées ou se pardonner, il en a côtoyé. C'est une sorte d'expert du pardon, quoi. Dans un article publié en 2019 sur le site de la plateforme interreligieuse de Genève, il raconte l'histoire de Maïti Girtaner.
Maïti Girtaner, une jeune résistante arrêtée en 1943, s'est retrouvée durablement handicapée suite aux tortures infligées par un médecin de la Gestapo. Après la fin de la guerre et une hospitalisation de plusieurs années, elle a délibérément choisi le pardon afin, comme elle l'affirme, de ne pas se laisser détruire elle-même par le ressentiment ou la volonté de vengeance. Au point qu'elle va prier pour son bourreau, dont elle ne savait pas ce qu'il était devenu, afin qu'il puisse d'une manière ou d'une autre recevoir ce pardon.
40 ans plus tard, cet homme prend contact avec elle. Avant de mourir, il veut rencontrer Maïti Girtaner, sa victime, pour lui demander pardon. Maïti Girtaner parle d'un long cheminement vers le pardon. « Ce n'est pas un miracle, dit-elle. Il faut avoir le désir fou, irrépressible, de vouloir pardonner. » Maïti Girtaner a écrit un livre au titre éloquent. Même les bourreaux ont une âme. Ce que je comprends ici, c'est qu'une victime peut bénéficier du pardon qu'elle donne. Pour Maïti Girtaner, comme pour Ingrid Betancourt, il a constitué un levier de reconstruction. On peut décider seul de pardonner pour ne pas rester enfermé dans la haine ou le passé. Pour Maurice Gardiol, Le pardon participe à la guérison de mémoires blessées et peut alors être un levier indispensable pour la reconstruction d'une vie. Et ce pardon, loué par la religion, a probablement aidé beaucoup de personnes à dépasser leur traumatisme. Là, on parle d'émotion, de ressenti. Mais le pardon se manifeste-t-il de manière tangible dans notre corps? Qu'en dit la science? Sait-on si ce pardon peut être bénéfique ou même améliorer notre santé? J'ai posé la question à Pietro Pietrini, psychiatre, neuroscientifique et professeur de biochimie clinique et biologie moléculaire à l'IMT School for Advanced Studies à Lucca, en Italie. Il m'explique qu'avant son équipe, d'autres scientifiques avaient déjà mis en lumière de nombreux effets bénéfiques du pardon.
Donc quand on pardonne, on y gagne aussi en termes de santé. En fait, le pardon est bon pour notre cœur. Notre rythme cardiaque baisse, notre pression sanguine aussi, les sécrétions hormonales changent, c'est-à-dire que vous avez une réduction dans la sécrétion des hormones du stress, etc., etc. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui montre que pardonner est un mécanisme bénéfique.
En 2013, Pietro Pietrini publie dans la revue Frontiers in Neuroscience une étude menée avec des chercheurs de l'université de Pise et de l'hôpital universitaire de la même ville.
Donc on a essayé d'intégrer avec une approche neuroscientifique ce qui avait déjà été fait dans différents domaines, du point de vue religieux, philosophique, psychologique ou encore éthique. Donc on a établi une série de situations dans lesquelles des individus en bonne santé, sans problèmes comportementaux, devaient imaginer différents scénarios et ensuite décider soit de pardonner, soit de ne pas pardonner l'auteur d'une infraction ou d'un outrage. Notre hypothèse de départ était que le pardon est un mécanisme sélectionné pendant l'évolution pour ses avantages en termes de survie de l'être humain. En d'autres termes, qu'est-ce que provoque le pardon ? Le pardon est un moyen de surmonter une situation qui autrement serait et deviendrait insupportable pour l'individu d'un point de vue cognitif et émotionnel. Pour être encore plus clair, si quelqu'un est profondément blessé par un comportement, disons au sein de la famille, l'infidélité d'un conjoint, ou au travail, quelque chose entre collègues qui est injuste, vous avez deux stratégies.
La première stratégie, face à un affront ou une attaque, consiste à surmonter la situation en prenant une décision radicale, donc se séparer d'un conjoint ou quitter un travail, par exemple. C'est la stratégie de la fuite. L'autre stratégie consiste à surmonter la même situation en accordant le pardon.
Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est simplement enlever la charge émotionnelle. La charge émotionnelle de la blessure pour la mettre de côté et la surpasser. Avancer, en fait.
Et l'expérience des chercheurs a confirmé leur hypothèse.
On a montré qu'en fait, il se passe quelque chose dans le cerveau quand nous pardonnons.
Et
ce qu'il se passe, c'est l'engagement de zones qui sont cruciales pour le traitement des émotions, pour l'empathie, pour la capacité à voir les choses sous un autre angle et pour en fait supprimer la douleur. Quand des individus pardonnent, ils activent des zones du cerveau qui sont liées non seulement, disons, entre elles, mais aussi avec le contrôle des émotions, la régulation des émotions, avec la suppression de la douleur. Donc en gros, le pardon, c'est une sorte d'antidouleur naturelle. C'est une sorte d'automédication. Donc le pardon pourrait être vu comme un mécanisme qui a été sélectionné pendant l'évolution, bien avant que nous puissions trouver des traitements pharmaceutiques, des antidouleurs, des médicaments ou même des psychothérapies.
L'évolution, dont parle Pietro Pietrini ici, c'est la théorie de l'évolution des espèces proposée par le biologiste Charles Darwin en 1859. Selon cette théorie, de temps en temps, aléatoirement, certains individus naissent avec des mutations génétiques. Et lorsque cette mutation permet à l'être vivant de survivre et de se reproduire, alors il peut transmettre la mutation à ses descendants, qui la transmettent à nouveau à leurs descendants. Selon Pietro Pietrini, notre capacité à ressentir le sentiment de pardon pourrait avoir été transmise de cette façon et avoir aidé l'être humain à survivre face à certains traumatismes.
Forgiveness helps the individual to cope with
le pardon aide les individus à surmonter les moments stressants, les moments douloureux de la vie. Donc je dirais que le pardon est un antidouleur naturel, un médicament naturel, une façon naturelle d'avoir une vie meilleure.
To have a better life.
Aujourd'hui, Emmeline va mieux. Elle décrit un cheminement, une forme de pardon solitaire qui lui a permis de se reconstruire.
Pour moi, c'est une forme de pardon quand même pour m'apaiser. Et je vous le disais tout à l'heure, moi je me sens heureuse dans mon quotidien. C'est rare que je sois fâchée, c'est rare que je sois pas bien, que voilà, j'ai ma petite vie, j'ai mon entourage... assez restreint quand même malgré tout, parce que j'ai eu des déceptions sur les amis qui m'ont lâché, mais même ça, j'ai fait mon deuil de tout ça, quoi.
Ce qui est incroyable avec les bienfaits du pardon, c'est donc aussi la conséquence concrète que ça peut avoir sur notre relation aux autres. Parce qu'on ne se comporte pas de la même manière ensuite si l'on pardonne ou si l'on est dans la colère ou le ressentiment.
So, forgiveness is a way to shift your...
Le pardon est une façon de déplacer notre comportement, de la vengeance vers la continuation de notre vie, en gros, contourner la situation et vivre notre vie. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher la justice, mais vous allez la rechercher de façon légale, sans être émotionnellement submergé, sans laisser la blessure prendre le dessus sur votre vie.
Je me demande... Existe-t-il une forme de justice qui puisse prendre en compte la violence de l'auteur, les souffrances de la victime, tout en cherchant la paix ?
Je le vois, oui. Et donc, vous m'entendez ? Est-ce que j'ai mis le casque ?
Salomé Van Biloon est criminologue en Belgique. Elle me parle de la justice restaurative.
Alors, la justice restaurative, c'est un processus de justice qui s'imagine en fait par l'ouverture d'un espace de dialogue et de parole. Si je caricature un petit peu le propos, en justice pénale, on s'intéresse essentiellement à la violation de la loi qui entraîne la culpabilité. Donc on s'intéresse, le focus est vraiment placé sur l'auteur et c'est l'État qui détermine la culpabilité et la peine en fonction d'une tarification pénale qui est prédéterminée.
Ce qu'elle décrit ici, c'est l'image la plus courante qu'on a de la justice. Quand la loi est violée, on passe devant les tribunaux. C'est l'État, par le biais du procureur, qui décide de poursuivre. Et ensuite, il y a une sanction décidée par les juges qui appliquent la loi.
Alors qu'en justice restaurative, on considère essentiellement la violation des personnes et des relations. Donc on considère aussi l'irruption des traumatismes, en fait, à travers des processus qui favorisent la responsabilisation, la réparation, la restauration, la sécurité, l'apaisement. La procédure pénale classique s'intéresse à la violation de la loi. Donc les questions qu'elle se pose, en gros, c'est quelle loi a été violée ? Qui a violé cette loi et qu'est-ce que la personne mérite? Mais elle se pose pas la question de savoir quelles sont toutes les personnes, l'ensemble des personnes qui ont été blessées par l'infraction qui a été commise, quels sont l'ensemble des besoins qui découlent des souffrances qui sont en coprésence et qui est responsable de soulager les peines.
Salomé Van Biloon a travaillé notamment pendant 4 ans au Rwanda dans le cadre de la création d'une démarche en justice restaurative. Cela consistait à faire en sorte que les personnes d'un village, meurtries individuellement et collectivement, à la fois par le génocide sur les Tutsis au Rwanda et plus récemment les violences sexuelles, puissent vivre ensemble.
Parce qu'il est évident que le simple fait d'infliger une peine à quelqu'un ne suffit pas à soulager les peines des personnes qui sont concernées par une infraction.
L'idée, c'est donc pour la victime d'aller mieux et pour les auteurs de regarder le mal infligé aux victimes à tous les niveaux. Les personnes qui travaillent dans cette démarche de justice restaurative sont appelées des médiateurs. Concrètement, ils vont faciliter la parole sans mettre sur un pied d'égalité les agresseurs et les victimes, contrairement à ce que l'on a vu avec le problème de la médiation d'Emeline. Dans la justice restaurative, les violences commises sont au cœur du processus.
La première chose qu'ils vont faire, c'est s'assurer de la sécurité physique et psychique des victimes, donc de la femme en l'occurrence. Et puis ils vont aller rencontrer la femme, ils vont aller rencontrer les enfants, ils vont aller rencontrer les parents, ils vont aller rencontrer les voisins, ils vont aller rencontrer les témoins. Et ils vont essayer pendant 6 mois de se mettre à l'écoute, pas tant de l'objectivité des faits, ce qui est plus le boulot de la justice pénale, mais plutôt de la subjectivité des vécus. Qu'est-ce que les personnes ont vécu comme violence? Qu'est-ce qu'elles ont fait subir comme violence?
Le but est de chercher un moyen pour avoir un avenir ensemble, sans oublier ou faire fi du passé. L'idée est celle-ci. Puisque nous vivons ensemble, en tant que communauté, en tant que village, comment faire pour vivre bien ou mieux ensemble?
Et puis ils vont, au bout de ces 6 mois, préparer les personnes à la tenue d'un cercle. On appelle ça un cercle de dialogue et de guérison communautaire. Et donc ce cercle va rassembler l'ensemble des personnes concernées par la violence, mais aussi une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes de la communauté villageoise qui les entoure. Et dans ce cercle, la femme va avoir une place prioritaire pour raconter les violences qu'elle a subies, ce qu'elle a envie de raconter.
La victime n'a pas à tout dire, tout raconter. L'homme, de son côté, va avoir l'obligation de parler. Il n'a pas droit au silence.
L'homme est quelque part contraint de devoir s'exposer et raconter les violences qu'il a commises. Il a la particularité de devoir le faire devant une communauté de gens qu'il connaît, ce qui est quand même très très particulier, parce que quand un homme rencontre devant des juges qui lui sont complètement inconnus, il n'a pas la même pression que quand il doit rendre compte devant son épouse, ses enfants, leurs proches, les familles, le chef du village, qui sont toutes des personnes qui lui sont chères et qui le connaissent.
La justice restaurative n'est pas un processus magique, mais peut-être une autre voie à explorer lorsque des violences, même extrêmes, sont en jeu, pour atteindre une forme de réconciliation, de pardon ou tout simplement de paix. Si Emeline en avait bénéficié, aurait-elle été mieux plus vite ? Son ex-conjoint, obligé d'être confronté à la souffrance infligée, aurait-il pu reconnaître le mal qu'il lui a fait ? Impossible de le savoir. Dans sa reconstruction, Emeline a suivi son propre chemin de pardon solitaire. Seule, aidée par l'écriture et le dessin. Elle a auto-édité un recueil de textes en 2015, « Derrière la porte ». Les mots de la souffrance et ceux de l'espoir cohabitent.
Subir l'intimité, rabrouer, corps déchiré de mots. Rester mère, les rendre heureux. Déraciner mais protéger. Douleur immense d'avoir dû me sauver, de leur imposer ces changements, de ne pas avoir su retenir mes larmes. Si épuisée, si usée, si apeurée. Rester mère est difficile. J'ai tant envie d'être prise en charge. Je dois garder mon rôle. Je suis un automate. Leur rire, leur jeu dans la tourmente sont une ressource immense.
Serrez-vous la main et faites la paix. Je me souviens de cette phrase qui, enfant, était censée résoudre un conflit par magie. Je me souviens aussi détester devoir serrer cette main, faire semblant que c'était terminé alors que j'étais encore tellement en colère. Personnellement, je repense au conflit que j'ai eu avec mes amis. Très souvent, ce sont des disputes sans grande importance et donc la plupart du temps, on se réconcilie assez vite en prenant le temps de se poser et d'en discuter. La réconciliation reste un chemin plus apaisant que le conflit permanent. Mais parfois, on cherche cette réconciliation en vain. Oui, parfois, la fin d'un conflit au sens large, c'est simplement la rupture. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que même sans cette réconciliation, on puisse trouver la paix, une sorte de paix intérieure que certains appellent le pardon. Emeline a réussi à s'en sortir. Elle a pu s'extraire au moins un temps des violences. Dans son histoire, la réconciliation n'est pas envisageable et exigeait d'elle qu'elle soit dans une forme de compromis perpétue la violence. Elle est donc passée par une forme de pardon et surtout, encore plus important pour elle, de reconstruction.
Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Eva Tapiero, monté par Gautam Shukla et réalisé par Marine Kéméré. Vous avez entendu les voix d'Emeline, Geoffrey Marc, Pierre-Guillaume Prigent, Pietro Pietrini et Salomé Van Biloun. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. À bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.